dessin que nous aurions pu avoir. Enseignement de la langue. À partir du troisième discours qu'il a fait à Rome, parce qu'il commence à mettre les tableaux et même les dessins que nous trouvons. Le symptôme, il appelle sigma. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Le symptôme. C'est que Lacan fait une première leçon qui rappelle qui se coordonne avec la leçon, la dernière leçon de l'année précédente, du séminaire, intitulée Hérésie. Et puis, il commence dans la seconde leçon à présenter ce que je vous dessine sur l'autre tableau. Il présente sur l'autre tableau, je vous montre ce qu'il dessine, c'est cette partie du dessin de Joyce. C'est-à-dire qu'il dessine ceci. Et dès le séminaire RSI, il a dit, dans la première leçon de RSI, il a dit ça, c'est Boromir. Ce que vous ne trouverez pas dans le séminaire Lacan, c'est de dire ça, c'est le Boromir aussi. Parce que si le Boroméen, c'est ça, la chaîne boroméenne la plus simple qui donne son principe à toutes les chaînes boroméennes, mais là-dessus, il va y avoir un doute de Lacan dans les années qui vont suivre le symptôme, ce qui va nous donner l'occasion de cette discussion. Reprise par Le Boffet dans les annexes de son livre là, sur le parti. Ça vient que moi je faisais la soupe. Et puis c'est, du coup ça a enclenché une série d'autres propos, y compris, moi j'ai vu ça en Argentine dans l'agenda de Traviva. C'est un esprit fort là, qui est un esprit de Sartrien, de Rosario qui a écrit qu'il a sauté sur ce que Lacan disait dans ce séminaire que nous avons repris et discuté avec Porges et Yann Diener dans les soirées là, des élémentaires de la lettre lacanienne, Lacan disant qu'il a commis un abus de métaphore et que le nœud est une métaphore impropre. J'ai apporté des éléments, je crois, dans un article qui va paraître dans un prochain numéro, peut-être le prochain numéro de la revue Essain. J'explique les suites qui ont été que Souris s'est précipité à écrire à Lacan une lettre dans laquelle il dit, et c'est la lettre qu'on trouve dans les écrits de Souris cette fois, dans les textes publiés par Michel Thomé. C'est le texte qui fait 6 pages et qui s'appelle, qui porte le numéro 140. C'est le dernier texte du troisième volume des textes de Souris. Il écrit à Lacan en disant « Je vous ai fait tromper, c'est de ma faute. » Parce qu'avant, il avait écrit justement qu'il y avait un nœud que Lacan met au tableau et qui a la propriété boroméenne, mais les trois ronds ne sont pas homologues entre eux, ils ne sont pas substituables, ils ont des fonctions différentes dans la chaîne, et Souris croyait que ça échappait à cette structure du boroméen que je dessine ici, où les trois ronds sont parfaitement symétriques. Moi j'ai bagarré, je raconte ça, pendant une année, à propos du boroméen généralisé avec Terrasson, Souris et Lacan. Et donc, j'ai bagarré pour dire à Lacan, mais non, vous ne vous laissez pas intimider, et d'ailleurs, Souris, on est venu à mon idée. l'humanité aussi. Il a, quand il a vu le résultat que j'ai proposé avec le Borromée généralisé, il a convenu que c'était... qu'il s'était trompé. Il l'écrit à Lacan, c'est même un peu pathétique. Moi, je n'imaginais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur pour Souris, puisque bon, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle il s'est suicidé plus tard. Mais je pense que je ne voulais pas du tout... Le problème, c'est qu'on n'en avait pas parlé avec Souris, et que moi, nous avons tous été surpris, Lacan, prenant un dessin... Dans des papiers que je lui ai montrés à lui 30 jours, un week-end où il y avait Souris, Lacan et moi autour d'une table. Et il a pris un dessin et il l'a mis au tableau en disant le Borromée généralisé, c'est ça. Vous verrez, c'est ce qu'il dit au séminaire aussi, il le met au tableau, c'est ce qu'il va dire. Donc vous verrez ça paraître dans S1, je pense. Donc le Borroméen, Lacan va en douter, mais à l'époque, à ce moment-là, c'est pas le fait qu'il doute du Borroméen qui est important, c'est que il connaît ça, il dit ça c'est la même chose que ça, mais bien sûr, à condition qu'on ajoute un croisement, il ne faut pas se gourer. Et on voit bien qu'il introduit Joyce, parce que dans la leçon numéro 11 du séminaire Le Symptôme, la dernière leçon, alors que cette figure que je viens de vous montrer est dans la deuxième leçon, il attend la 11e leçon pour nous dire là que Joyce... Il s'est trompé ici. Il s'est trompé ici, ça c'est donc raté. Et il s'est trompé ici, et du coup il introduit un ego, et Lacan prend un prétexte de ce que Joyce a écrit dans Stéphane le héros. Il a reçu une raclée de ses copains, et quand il s'est fait un peu tabasser par une bande de types, il a eu l'impression que son corps glissait comme une pelure. Donc on va appeler ça la question de l'élément qui glisse, de l'élément qui se perd, de l'élément qui se détache. Et donc on a tout à fait là la question que la thématique qu'emprunte Lacan, c'est de nous dire, voilà, si on a raté ici, le rond qui est là, c'est le corps, c'est I, ben il va se défaire. J'ai montré ça très tôt, il va se défaire, il va glisser et il va pouvoir se détacher de l'enlacement qui reste, qu'on peut supposer être S et R. Donc, Joyce, il utilise son art, dont il a l'argueil, comme dit Lacan, son argueil, il en fait son art, son ego, pour faire tenir cette chaîne de manière à ce que son corps ne glisse pas. Ça, c'est la leçon 11. Donc, la question, c'est pourquoi Lacan, qui pouvait nous dire ça dès la leçon numéro 3, puisqu'il a amorcé les choses, surtout que je vous fais remarquer que dans la leçon numéro 2, quand il parle de cette figure-là, vous voyez, quand il parle de ça, il ne parle pas du triskel comme étant lui aussi un nœud borroméen, puisque s'il manque un croisement, connaissant la structure du borroméen, on peut rétablir le quatrième, le cinquième croisement, le sixième croisement qui manque. Mais il suffit d'en avoir trois pour savoir qu'à l'infini, les trois autres, ils vont être imposés. C'est ça la question de la droite infinie et des épiphanies de Joyce. Joyce, il s'intéresse aux épiphanies, il s'intéresse aux messages qui viennent de l'infini par les droites infinies. Il y a deux droites infinies. Et si vous avez trois droites infinies, vous voyez que vous pouvez faire un nœud borroméen. Si vous savez dessiner le nœud borroméen, vous voyez que 3 suffisent pour déterminer les 3 autres, pour que ça fasse une chaîne borroméenne. Et que Schreber, c'est celui justement, ou disons, on va dire, dans la psychose, première manière, la thématisation de la psychose, chez Lacan, depuis son question préliminaire au traitement des psychoses, la psychose, c'est 3 ronds libres, les ronds ne tiennent pas. Et là, il y a une équivoque qui va durer longtemps, ou entre psychose et folie, parce que. Dans le séminaire Les Noms du Père, par exemple, les noms du R, Lacan dit de Hans que Hans, sa chaîne, elle est la chaîne de la névrose. Hein, la chaîne de la névrose, il va dire, c'est quelque chose comme ça. C'est l'enlacement. Puisqu'il dit que la névrose, c'est le tort. Et que ça, c'est la version nodale du tort. Un tort, c'est deux torts enlacés. Un tort, c'est un tort qui peut se retourner, et il a traité de cette structure du tort depuis l'identification. séminaire de 62, il établit un lien structural entre la névrose, le tort. Il le redira dans l'étourdi. Il dit, j'ai expliqué à des gens qui étaient prêts à m'envaser que le tort, c'est la névrose, la structure du tort. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut l'entendre. Qu'est-ce que c'est le tort pour Lacan? La névrose, c'est le tort. Parce que la névrose, c'est se faire du tort. Le sujet qui a une phobie, la base même de la névrose, c'est la phobie. Cette base, le sujet, il se fait du tort parce qu'il y a quelque chose qui est plus caché derrière la phobie et la névrose d'angoisse, derrière ces variations qui vont devenir hystériques et obsessionnelles, hein, dont je vais vous reparler un peu tout à l'heure, parce qu'on va recroiser ça. Eh bien, dans cette histoire de névrose, il faut voir que la névrose, c'est se faire du tort. Lacan dit très bien dans un séminaire qui s'appelle Le savoir du psychanalyste. Il parle aux psychiatres qui sont dans la salle, il leur dit oui, on s'étonne parce qu'à ce moment-là, vous savez, je fais du temps de Brejnev, on utilisait la psychiatrie pour enfermer les dissidents en Russie. Alors Lacan, il dit mais écoutez, à l'époque, la loi sur la psychiatrie qui définissait la fonction du psychiatre, sa mission, c'était pas encore refait. Ça a été refait, mais ça ne change pas grand-chose. Et à l'époque, la loi disait que le psychiatre, c'est celui qui devait veiller à ce que le sujet ne se fasse pas du tort à lui-même ni aux autres. Qu'il ne fasse pas du tort, ni à lui-même, ni aux autres. Alors Lacan, il dit, écoutez, ne pas se faire du tort à soi-même, c'est quand même l'ordre public repose là-dessus, ça s'appelle la névrose. Et il y a d'autres moments où Lacan, il dit, regardez, la névrose, c'est vachement bien, ça vous évite de réfléchir, vous avez des petits rites, là, des petits rituels un peu névrotiques, vous voyez, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, parce que la névrose, c'est phobique, c'est principalement territorial. Donc ça assure l'ordre public. Tout le monde rentre directement chez lui après le boulot, il va pas. Bon, il y en a qui vont au café, c'est un peu chez eux. Hein. Voilà. Comment ?
Les aventuriers.
Non, mais il y a des aventuriers ensuite. Ensuite, on n'est pas obligé d'être névrosé. Mais la névrose, c'est se faire du tort au sens où c'est surtout j'ai peur de tout. Voilà. La névrose, son slogan, le névrosé dans la phobie, c'est il a peur du désir de l'autre, mais il ne le sait pas. Alors il dit pourquoi je ne vis pas dans la jungle, au milieu des bêtes féroces ? Le pervers, lui, il vient vous voir pour dire pourquoi moi je suis pas une bête féroce. J'aime bien envelopper les garçons dans des films transparents, un peu venant du pétrole, mais pourquoi je les étouffe pas complètement. Enfin, vous avez plein de bon, c'est l'idée du fétichiste qui utilise son fétiche pour atteindre l'autre. Bon, il a toujours peur de lui-même. Tandis que le phobique, il a peur des autres. Dans la phobie, c'est la névrose, c'est ça. C'est pourquoi ne suis-je pas, je ne vis pas dans la jungle au milieu des bêtes féroces. Vous voyez, névrose et perversion sont bien deux figures de la civilisation qui sont des variations. Il faut les Lévi-Strauss pour nous avoir montré que la pensée sauvage, c'était vraiment une méthode d'investigation géniale du temps des mythes, et que les mythes servaient à. Mais que ce soit les mythes ou les névroses ou les perversions ou même les religions, vous voyez qu'on va puiser dans le paradigme de la nature, des animaux et des plantes pour faire de la métaphore névrotico-perverse entre métaphore et métonymie, enfin bon, une stylistique comme ça. Ce qui est tout à fait différent de la psychose, puisque la psychose, c'est plutôt le fait de dire tout ça n'existe plus, ne doit plus exister, on n'est plus dans la nature, on est complètement séparé de la nature. C'est pour ça que c'est important la remarque de Lacan dans la première leçon du symptôme. Ne dites pas, ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. Ça ne veut pas dire que c'est naturel, mais ne vous laissez pas dire que ça ne l'est pas. Donc il est faux que le sexe ne soit pas naturel, il est faux aussi que le sexe soit naturel, puisque l'éthologie ne nous explique pas, nous explique rien. Et c'est justement une des définitions importantes du symptôme. Et du symptôme, c'est la raison pour laquelle Lacan a introduit le symptôme à propos du symptôme. C'est le fait qu'on n'expliquera jamais comme cette espèce d'abruti qui a beaucoup de succès par le fait de la désobéissance dans le monde sans limite, ou la résilience, là, vous voyez, expliquer la difficulté du sujet du langage par le fait éthologique, le fait que si jamais on reçoit un choc, il peut y avoir une réaction pour surmonter ce déficit. Bon. Pourquoi est-ce que je dis que c'est ça la raison qui fait introduire à Lacan dans son enseignement le symptôme, le mot symptôme en latin? Bon, parce que cette histoire de symptôme, Donc je résume des choses ce soir pour que vous ayez bien en vue ce que j'ai dit cette année. Ça fait 2 ans que je parle de ce séminaire et je voudrais passer à la suite. La suite, c'est ce que je vais mettre ici. La suite. Je vais mettre ici. La suite, c'est dans ce séminaire, il se passe quelque chose. Lacan transforme la psychose paranoïaque, il la remplace par le neutre. La famille, c'est la psychose paranoïaque. Donc, comment on passe d'une chaîne défaite, d'un œuvre romain raté, hyper raté, beaucoup plus raté que chez Joyce, chez Schreber, que Freud répare. Freud, lui, met une réparation qui s'appelle le symptôme. C'est le symptôme Freud, ça. Lacan l'explique dans le séminaire RSI. Il dit comment la psychanalyse opère. Ensuite, il dit ensuite qu'il y a quelque chose qui s'appelle la psychanalyse. Il y a une suite à ce symptôme Freud. Il dit que la psychanalyse, elle opère. C'est ce que j'essaye de faire, dit Lacan. Il dit dans le RSI, il dit ça, j'essaye de faire, de prendre le nœud borroméen à 3 pour le glisser. Vous voyez, celui qui était raté par Schreber et par Joyce de manière différente. Là, c'est 2 fois le même nœud borroméen. Ça marche. Ça, c'est la structure beau. Ça, c'est pour ceux qui savent lire. Mais qui sait lire? Qui sait, en recevant comme ça les messages par les droites infinies, en recevant comme ça. Alors, est-ce que c'est des hallucinations, les épiphanies? Ça semble pas. On a dit que Joyce était psychotique. Non, il s'intéresse à sa fille. Il dit que sa fille le tient au courant. La fille, elle a l'air assez psychotique. Bon, mais vous savez, la psychose, moi, je crois que c'est une affaire des familles. Alors, ça vient des structures, des symptômes, des névroses familiales. Si vous lisez le traitement des psychoses chez Lacan, ça commence dans son texte sur la famille. Il y avait les névroses de transfert. Les névroses de transfert étaient soi-disant traitables uniquement, les seules qui pouvaient être traitées par la psychanalyse, du fait que la psychanalyse, c'est le transfert, et son analyse, l'analyse du transfert. Sinon, ça s'appelle acting out. Donc, il y a transfert, nécessité du transfert pour analyser les névroses de transfert. Et on disait à l'époque, Lacan le fait remarquer, avant-guerre, on disait que les névroses familiales, là, vous savez, les trucs qui se reproduisent régulièrement, les gifs, qui se transmettent de génération en génération, que ça c'était pas du tout traitable par la psychanalyse, parce que c'est pas des névroses de transfert. On a toujours essayé d'évacuer la psychose de l'analyse. Et moi, je pense qu'il faut absolument passer par l'analyse de la psychose, mais que la psychanalyse, c'est peut-être pas ce qu'on croit, ni du côté des névroses, ni du côté des psychoses. C'est peut-être ça le déficit. Donc, je voudrais vous dresser le tableau. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'analyse. Et l'analyse, c'est pas analyser quelqu'un qui aurait un déficit, justement. Le déficit, il est dans le discours analytique. Il est juste. C'est pour ça que Lacan, il bagarre entre Joyce et Freud, Schreber et Freud, parce que ça c'est Hamlet, Joyce, c'est Hamlet, et Freud, c'est Oedipe. Bon. Qu'est-ce que c'est la différence entre Hamlet et Oedipe? Alors là, je vous renvoie au texte que Lacan a écrit, qui s'appelle Joyce le symptôme. Joyce le symptôme, c'est le dernier écrit de Lacan. Enfin, c'est juste publié dans les autres écrits, c'est juste avant un autre écrit qui est un peu plus tardif, mais à peine, qui a dû être écrit à la même époque ou avant, mais qui est une préface pour les éditions anglaises. Hein. C'est ça, préface à l'édition anglaise du séminaire 11, bon, 17 mai 76. Bon, juste avant, il a écrit, après avoir fait sa conférence qui a été reproduite là, par Navarin, au symposium Joyce, invité par Jacobert, avant de faire le séminaire symptômes, il a fait un topo et il en a fait un écrit. C'était longtemps disponible là, dans les presses universitaires de Lille. Et maintenant, et puis c'était republié par Navarin dans le livre Joyce avec Lacan, très mauvais titre. Bon, et dans ce texte, Lacan nous dit Joyce, c'est Hamlet, il se prend pour le fils nécessaire. Alors je suis tout à fait disposé. Hamlet, hein, Hamlet, c'est l'hystérique. Et Lacan le dit, hein, c'est l'hystérique. Il l'écrit explicitement. Hein. Donc il y a le séminaire et il y a les écrits. Il faut les croiser pour lire Lacan. Hein. Joyce se reconnaît le fils nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire de ce qu'il se conçoit, sans que pourtant il se croit beau, de l'historiette d'Hamlet, hystérisé par son saint père de cocu empoisonné par l'oreille de Zeugma, et par son symptôme de femme, sans qu'il puisse faire plus que de tuer en Claudius l'escaptome, hein, pour laisser place à celui de rechange qui fort embrasse à perternité. Alors vous voyez que tout à coup, dans cette phrase, on voit apparaître que Hamlet est hystérique, il est hystérisé, Joyce, et qu'il s'agit de son symptôme de femme. Ah, là, il n'emploie pas le mot symptôme. Alors pourquoi Lacan emploie le mot symptôme? Le mot symptôme, il nous dit depuis RSI, même déjà dans les Non-Dupes, il le dit une fois, il nous dit l'inventeur du symptôme, c'est Marx. Alors, vous cherchez dans Marx ou Marx. Alors, il l'explique, Lacan. Hein, il dit c'est en s'interrogeant sur le passage de l'ancien temps, la féodalité, au temps moderne, que Marx a découvert le symptôme. Il est découvreur du symptôme. Et qu'est-ce qu'il appelle symptôme, Marx? Il dit c'est un ancien système de production qui survit dans le nouveau système de production. Donc, voyez pourquoi Lacan a été chercher symptôme, parce que le symptôme, c'est défini par l'existence de la survivance du symptôme. C'est-à-dire que derrière l'écriture moderne du français, dans lequel on a injecté l'écriture grecque là, depuis la découverte, pendant la période de l'invention de la philologie, là, tout ce qui aboutit à Érasme et qui va aboutir à la Renaissance, Vous avez, il s'est passé quelque chose, il y a une rupture provoquée par saint Thomas d'Aquin, donc jeu de mots supplémentaire. Symptôme, ça va nous évoquer Thomas, mais ça nous évoque aussi le symptôme dont Peter Brome a parlé dans l'Antiquité tardive. Donc est-ce que c'est le symptôme qui se perpétue dans les temps modernes? Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est la charité chrétienne. Non, c'est, le symptôme, c'est pas la septuagénaire. Peter Brome présente bien le symptôme comme étant celui qui est une survivance déjà, un symptôme, donc, du patron romain, dans l'Antiquité tardive au Moyen-Orient. Ça se passe surtout en Syrie. Et il y a deux types de symptômes, c'est soit le notable qui va prendre les doléances de tout le monde et qui va aller à la ville pour plaider la cause de sa province, ça deviendra notre député, mais le patron romain, ça donne aussi le parrain de la mafia. Et puis le député, ça peut être une forme de raquette. Hein. On a vu ça et on le voit encore. Bon, on appelle ça poliment corruption. Surtout que ça fait leader, ça fait foule, petite foule ou grande foule d'ailleurs. Puis l'autre type de symptôme décrit par Peter Brome, c'est la sève qui monte sur une stylite, qui va dans le désert et qui monte sur une colonne, qui s'isole. Et qui, bon. Vous avez un très bel exemple de ce symptôme dans le film de Buñuel, qui s'appelle Simon du désert. Vous verrez les tentations que Buñuel imagine, la sorcière très 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 bien roulée qui vient tenter le Saint Simon. Et puis ensuite, comme lui il résiste, elle se révèle être une horrible dame qui part sur un balai. Ça, c'est très amusant. Regardez le film Saint Simon du désert. Et alors, voilà les deux types de symptômes du Moyen-Orient. Et ce que Peter Brome fait remarquer, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la question des reliques. Parallèlement au culte du saint homme, va se développer le culte des reliques. Et les reliques, c'est des morceaux du saint homme. On en garde, une fois qu'il est mort, on en garde des morceaux. Bon, donc vous voyez que les morceaux du corps, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, mais c'est un chemin qu'on peut suivre. De voir comment ça va aller jusqu'au traitement du corps morcelé par le narcissisme qui réussit à essayer de faire une unité du corps avec quoi? Avec la nécessité de la dimension phallique dans l'image narcissique. C'est ce qu'explique Lacan à plusieurs endroits, c'est qu'il y a une condition pour que l'image narcissique fonctionne. Bon. Donc je ne parle pas des conséquences que ça peut avoir concernant justement les parties du corps, le corps morcelé, les morceaux du corps, les déchets, et l'objet A, évidemment, vous voyez, l'objet dans la psychanalyse. Il y a ce culte du symptôme et des reliques, notons-le. Puis il y a une autre chose dans Peter Brome que vous pourrez lire, c'est dans l'article sur Saint Grégoire, il dit une chose qui intéresse sûrement beaucoup ce thème du symptôme de Lacan, puisque Lacan nous ramène le symptôme Joyce à son intérêt pour les épiphanies également. Et la droite infinie, il parle de la droite infinie dès la leçon numéro 2. Dès qu'il parle de ses dessins, vous voyez, dès qu'il parle de ça, vous avez remarqué que ici c'est des cercles, et ici c'est deux droites infinies. Et moi j'ajoute qu'ici il y a trois droites infinies, et si on sait lire, si on sait entendre, comme diraient les psys là, qui ont l'oreille fine, c'est une fée. Enfin bon, c'est si on sait lire, et ça dépend. Ça, lire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question où nous conduit tout ça. C'est qu'est-ce que c'est que lire? Joyce, il fait des erreurs de lecture. Schreber, il fait des énormes erreurs de lecture. Freud, c'est quelqu'un qui arrive à introduire quelque chose, une façon de lire qui va réparer l'impossibilité de lire du paranoïaque Schreber. Vous voyez, la théorie d'Abraham, hein, le paranoïaque, il cherche, le délire étant une tentative de guérison, il cherche à construire un objet, et cet objet, il trouve que l'ombre de l'objet, enfin, conférence 26 hein, d'introduction à la psychanalyse de Freud, narcissisme et libido, ils disent, voilà, Abraham, c'est pas mal sa théorie. L'ombre de l'objet fait que rétroactivement, il va y avoir un effet. Alors là, il y aura un effet de régression, et puis il va y avoir une décrépitude du corps. Bon, l'ombre de l'objet, c'est que le sujet, il n'arrive pas à lire. Il n'arrive pas. Le paranoïaque, c'est quelqu'un qui refuse de lire. Il dit, c'est fini les histoires des animaux, de savoir lire au travers des mythes, comme nous l'a montré Lévi-Strauss. C'était une activité, la pensée sauvage, extrêmement développée, autant que les mathématiques de nos jours, hein. Premier chapitre de la pensée sauvage, c'est un bricoleur et ingénieur. Et donc les mythes, c'est de la lisibilité, c'est une question de lecture. Et les lois d'écriture ne sont pas les mêmes dans les mythes, qui ressemblent beaucoup plus à quelque chose de l'ordre de la parole, des lois de la parole, comme la métaphore et la métonymie, alors que du côté des mathématiques, il semblerait qu'on a affaire crûment à la condensation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métaphore, mais ce que la métaphore illustre se trouve d'une manière je dirais, pure dans les mathématiques. C'est de la pure lettre. C'est de la lettre silencieuse. Et je dis que c'est hyper dogmatique. Alors, les mathématiciens ne sont pas psychotiques. Hein. La science qui s'appuie sur les mathématiques est psychogène, produit beaucoup de psychose, puisque justement, on en fait la subjectivité scientifique. Là, il y a beaucoup de psychose qui se développe, mais, et surtout dans les discours des familles, même. Vous voyez, ça peut venir en plusieurs générations, une psychose. Il y a des sujets qui se trouvent un peu étranglés là, mais c'est pas un symptôme du tout historique comme la névrose et la perversion. C'est pour ça que cette histoire de transfert se pose, parce que dans la névrose et la perversion, il y a des scansions historiques singulières pour le sujet, et c'est ce qu'on cherche. Bon, mais ceux qui croient qu'il s'agit d'une anamnèse et d'une abréaction et puis de retourner à l'origine, alors là on va voir que c'est complètement abruti. Et Freud, il est bien depuis longtemps revenu là-dessus. Et donc, vous avez affaire à des différences structurales importantes. Et